une histoire particulière. René Drouin, élève à l'école spéciale d'architecture puis dessinateur de mobilier contemporain, crée le 5 juillet 1939 avec Léo Castelli la galerie d'art Drouin, installée au numéro 17 de la place Vendôme à Paris. Exposant des artistes souvent contestés, d'avant-garde ou marginaux, ils se mettent en danger vis-à-vis de la critique officielle et du public. Léo Castelli, pourchassé par les nazis, doit quitter la France et s'installe à New York. Il y devient sans doute le premier promoteur de l'art américain. C'est son histoire que Stéphane Bonnefoy et Vincent Deck nous racontent maintenant.
Léo Castelli, agent du triomphe de l'art américain. Un documentaire de Stéphane Bonnefoy et Vincent Deck. Léo Castelli et Ileana Sonnabend. Soit le couple le plus influent, après-guerre, d'une histoire de l'art américain encore jeune, dépourvu de tradition, où tout est à faire. Je ne suis pas un marchand d'art, je suis galeriste, et m'est à répéter Léo. Il sera bien plus que cela. Avec son épouse Ileana, plus discrète mais non moins puissante, ils vont incarner les années de la jeunesse canadienne en faisant triompher le pop art en Europe dans les années 60 et vont ainsi asseoir la domination de l'art américain sur le dos de la France. Mais avant que ne sonne l'heure du triomphe, il aura fallu permettre l'émergence de cette fameuse modernité artistique grâce à une génération d'artistes dont Jackson Pollock sera tout à la fois le symbole et le héros. Une modernité jusque-là incarnée par la France et son école de Paris, affaiblie par la guerre dans une Europe en pleine reconstruction. Première partie, l'ombre de la CIA plane sur Jackson Pollock et Léo.
C'est une image un peu erronée qu'on a. On a beaucoup d'images erronées sur Castelli en France, énormément.
Annie Cohen-Solal, biographe de Léo Castelli.
On imagine qu'il est le suppôt du gouvernement américain, c'est complètement faux, parce qu'il est beaucoup moins américain qu'il n'est représentatif de cette très grande bourgeoisie de l'Empire austro-hongrois cosmopolite, juif cosmopolite. Donc c'est un homme qui porte en lui l'admiration qu'on a pour la Toscane de la Renaissance, par exemple. Son idole, c'était le type qui avait construit le Palazzo Vecchio de Florence. Il avait une érudition colossale. Ce type, vous récitez les fables de La Fontaine par cœur, Ronsard par cœur, la même chose avec Goethe, avec Dante, avec Shakespeare. Bon, ça n'a rien à voir avec un Américain. Un Américain, d'abord, ne connaît pas la carte de l'Europe. Et Castelli, lui, il est né à Trieste, qui était en 1907, qui était le port de l'Empire austro-hongrois, et puis il s'est retrouvé passer la guerre à Vienne, et puis en revenant, Trieste, c'était une ville de province du royaume d'Italie. Bon, donc, il est absolument façonné par les troubles de l'Europe de la Première Guerre mondiale, et puis après de la Seconde, etc. Alors, il va s'accrocher aux États-Unis, il va devenir américain, il va promouvoir l'art américain, mais ni Léo Castelli, ni Ileana Sonnabend n'étaient des Américains typiques, en rien. Et c'était donc des très grands bourgeois, elle encore plus que lui d'ailleurs, puisque c'était la fille de l'homme le plus riche de Roumanie, qui s'appelait Shapira, et qui était, le conseiller financier du roi Carole de Roumanie. Je veux dire, les dîners chez le père d'Ileana à Bucarest, c'était du genre des dîners à la cour d'Angleterre. Derrière chaque convive, il y avait un majordome en gants blancs, et pour chaque convive, il y avait un cadeau qui était un fume-cigarette en argent massif de chez Cartier. Enfin, c'était le genre. Donc, Léo a épousé la jeune fille la mieux dotée de Roumanie. Et le père d'Ileana habitait à côté de l'ambassadeur d'Allemagne à Bucarest. Et c'est en 1933, l'ambassadeur d'Allemagne qui a dit au père d'Ileana, vous, juif, vous partez. Et il est parti parce que son copain, son voisin, l'ambassadeur d'Allemagne, lui a dit de partir. Il est allé en France, puis il est parti, a reparti après en 41. Bon, donc voilà, voilà, c'est ça. Il parle Portugal, etc. Mais en gros, c'est ça, Léo Castellino. Et c'est des gens qui étaient anars. Moi, c'était des anars. Donc, ils n'ont pas du tout, ils ne représentaient pas du tout la mentalité philistine américaine, ce qu'on appelle les American Philistines. Et c'est vrai que ils avaient cette espèce de légèreté des gens qui n'ont jamais eu de problème dans la vie. Et en même temps, cette position politique très 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 différente. Il y a peu de gens comme eux aux États-Unis. Il n'y a que les juifs cosmopolites. C'est en fait un transfert culturel. Et le monde de l'art aux États-Unis est plein de ces juifs cosmopolites émigrés. Donc, c'était pour mettre les choses au point, parce que on a souvent tendance, moi j'ai souvent entendu dire oui, c'est un suppôt du FBI, de la CIA. Non, pas du tout, du tout.
Il ne faut pas oublier qu'il est européen, donc il a gardé quand même toujours cet amour pour l'Europe. L'été, il venait en France passer ses vacances. Il allait tout en Italie aussi, fêter son anniversaire. Je crois que c'était en août, il allait toujours à Venise.
Nathalie Obadia, galeriste.
Donc il y avait, c'était un homme d'une double culture. Mais quand on regarde bien, il est très fasciné. Enfin, je veux dire, c'était quand même l'émigré qui devait tout à l'Amérique. Donc il avait quand même cette grande fascination de l'Amérique. Voilà, comme il l'a dit, il s'est détaché de la peinture européenne assez vite. Donc après, si vous voulez, pour lui, c'était le triomphe voilà, de l'émigré, du petit juif de Trieste, même s'il venait d'un excellent milieu, et qui arrivait en 20 ans à côtoyer les plus grandes fortunes américaines et les plus grands artistes. Donc si vous voulez, c'était une success story absolument extraordinaire. Il a toujours passé beaucoup, beaucoup de temps avec les gens les plus influents.
À peine a-t-il débarqué sur le continent américain que Léo Castelli intègre l'armée américaine à sa demande en 1942. Le sergent Castelli, né à Trieste en 1907, repart pour l'Europe où ses dons polyglottes lui permettent d'intégrer les services de renseignement, l'OSS, ancêtre de la CIA. Ses bons et loyaux services sur le front européen lui permettent d'obtenir, très vite après la guerre, la nationalité américaine. De là, un mythe tenace colle à la peau de cet homme charmeur mais terriblement secret, celui d'être resté proche des services de renseignement américains. Il faut dire que la collusion est grande alors, en pleine guerre froide, entre hommes de l'art, politiques, venus de la finance ou à la tête de puissants médias, et la CIA, nouvellement créée en 1947.
La décision d'inclure la culture de l'art dans l'arsenal américain est prise dès la création de la CIA en 1947.
François Lévy-Kuntz, auteur et réalisateur.
Et donc, elle va financer secrètement les expositions à l'étranger. Les peintres américains vont être investis d'une mission, finalement, de représenter le monde libre, de la liberté d'expression, la démocratie et la puissance aussi du pays. Il y a des personnes qui se disent qu'un grand pays doit avoir une grande peinture. Il y a quand même un grand chef d'orchestre aussi dans cette histoire, c'est Rockefeller, Nelson Rockefeller, qui est à la fois un homme politique, qui a eu des postes de ministre, je crois, pendant la guerre et après la guerre, surtout. Il est héritier d'une grande famille qui a financé la construction, enfin qui fait partie d'une des familles qui ont financé la construction du MoMA, qui est le grand musée d'art moderne de New York. Et il en prend la présidence. Alors, autour de Rockefeller, il y a des amis puissants et dévoués, effectivement. Des gens comme William Paley, qui est fondateur de CBS et créateur de la CIA. Il y a Tom Braden, qui est secrétaire du MoMA et membre de la CIA. Il y a William Burden, qui est futur président du MoMA, qui prendra la place de Rockefeller plus tard et qui dirige plusieurs fondations, dont cette fondation Farfield, par lesquels vont transiter les fonds, et les tableaux vont être envoyés dans toutes les capitales d'Europe. Le marché de l'art en Europe est au point mort, Et l'idée sous-jacente est de faire de New York le nouveau centre d'art moderne du monde.
On parle toujours de 45, la victoire des États-Unis sur le reste du monde. Mais finalement, quand on regarde bien, 40-41, il y avait déjà des acteurs qui avaient décidé d'une certaine manière d'organiser le triomphe de l'Amérique au XXe siècle. Je reprends notamment la couverture de Life, faite par Henry Luce, qui était le propriétaire de Life, de Time et de Fortune, et qui disait « le 20e siècle sera américain ». Voilà, donc ça c'est quand même une couverture de 41, donc bien avant même la victoire. Il y avait des acteurs comme Samuel Coutts, donc qui était un marchand d'art, qui avait au départ fait fortune à Hollywood, donc il connaissait très bien toutes les manières de promouvoir une culture, puisque la culture du film, du cinéma, est quand même celle qui fait que les États-Unis se sont fait connaître dans le monde entier. Et donc il a voulu appliquer ses méthodes dans le domaine artistique. Et c'est comme ça qu'effectivement, il s'est entendu avec Henry Luce, avec des critiques comme Clement Greenberg, avec des artistes comme Pollock qui allait apparaître, pour en faire les héros de cette Amérique moderne, en les mettant en scène. Il ne faut pas oublier que Pollock était finalement photographié, en train de peindre dans Life, c'est-à-dire que c'est comme si c'était le Paris Match d'aujourd'hui. On imagine l'effet que ça pouvait faire, de voir un artiste à genoux sur une toile, en train de pratiquer le free will, voilà, qu'on allait retrouver après d'ailleurs aussi dans le cinéma américain, donc qui symbolisait l'Amérique libre, l'espace, c'est ça aussi qui est très important, les grands tableaux. Voilà, Samuel Coutts, après, a fait des expositions, par exemple, dans des grands magasins. Il a organisé des expositions chez Macy's. Donc, si vous voulez, tout était en ordre pour qu'à un moment donné, on fasse de ces peintres abstraits l'avant-garde, le premier mouvement d'avant-garde américain. Donc, ils se sont entendus pour faire de cette école des abstraits expressionnistes, de l'action painting, comme dira Harold Rosenberg, voilà, l'école qui fait que l'Amérique allait supplanter l'Europe et bien entendu aussi la France après la guerre.
Est-ce que c'est un phénomène nouveau en fait aux États-Unis ? Parce que sur le plan culturel, évidemment, il y avait un complexe d'infériorité presque même jusque-là.
Ah oui, ça bien sûr qu'il y avait un complexe d'infériorité. Il y avait aussi le fait que, notamment on l'a vu apparaître pendant le New Deal, où il y a des commandes qui ont été passées à un grand nombre d'artistes pour les faire vivre. Et cela mettait valoriser plutôt les artistes figuratifs, narratifs, qui racontait plutôt une Amérique rurale, une Amérique besogneuse. Et à un moment donné, on s'est dit, si on veut passer à un stade supérieur pour pouvoir rivaliser avec l'Europe et surtout avec la France, il faut montrer cette avant-garde. L'avant-garde est passée par l'abstraction. Parce que l'abstraction, qui dit abstraction, dit effectivement un art peut-être plus intellectuel, plus raffiné. C'était aussi plus facile de l'exporter, puisqu'il n'y a pas vraiment de message politique, même si certains des artistes qui pratiquaient cette abstraction l'étaient. Mais on pouvait en tout cas dissocier les deux. Voilà. Donc ça, c'est évidemment quelque chose d'important, d'avoir pu exporter grâce à cette abstraction.
Je crois qu'après la Deuxième Guerre mondiale, c'était compliqué de continuer à peindre après l'horreur et la barbarie. En fait. Et c'est qu'il y a un avant et un après. Et la question que ces artistes se posent, c'est comment représenter la figure humaine après Auschwitz, après Hiroshima. Et ce sont des nouvelles générations d'artistes qui pensent que l'art doit affronter la violence du monde. Elle doit témoigner, elle doit s'aventurer vers de nouvelles formes. La phrase de Barnett Newman est très claire, c'est repartir à l'origine de l'art comme si la peinture n'avait jamais existé. Et donc ça va se traduire par des formats, par l'abstraction, par une écriture, je dirais, qui est active, action painting.
C'est un travail de longue haleine, qui ne fait pas toujours recette, mais les expositions d'art américain se multiplient en Europe. Parallèlement, il faut aussi familiariser les Américains avec cette abstraction nouvelle. Surtout qu'elle ne séduit pas tous les républicains, et moins encore les McCarthyistes. qui n'hésite pas à taxer ce courant de subversif et de communiste, car pratiqué par de nombreux artistes émigrés venus de l'Est. Les campagnes de presse se multiplient. En 1949, le magazine Life, aux mains d'Henri Luce, par ailleurs membre de la CIA et jusque-là très critique à l'égard de l'expressionnisme abstrait, change de ton et se demande si finalement Jackson Pollock ne serait pas le plus grand artiste américain vivant.
Quelqu'un comme Pollock, quand on regarde bien, c'est un peintre qui vient du Kansas, qui ne vient pas de l'élite intellectuelle et qui a été d'une manière façonnée par Clement Greenberg, par Samuel Coates et après par d'autres personnages. Et c'est vrai qu'il était peut-être plus facile de jouer avec lui que de jouer avec Clifford Steele, Roscoe, Newman. C'était pour la plupart, sauf Clifford Steele, ce sont des artistes qui étaient nés à New York. C'était vraiment une élite de l'Europe de l'Est qui a fait semblant de ne pas savoir que les expositions qui étaient exportées en Europe n'étaient pas financées par la CIA ou par des philanthropes qu'on incitait à aider au financement. Ils ont laissé faire. Mais c'était plus difficile de le faire avec eux que de le faire avec des artistes comme Pollock. C'est pour ça qu'il est devenu le héros de cette abstraction expressionniste américaine. Pollock, il était vraiment, on va dire, c'était le cow-boy de la peinture. Il était beaucoup plus authentique, presque, on dirait presque primitif. Il ne venait pas de cette élite-là. Donc même s'il a été raccordé, c'était une autre vision de l'art américain. Puis bon, après, il est mort en 1956. Il y a tout un mythe aussi qui a été fait autour de lui, mort dans un accident de voiture, un peu comme James Dean, vous voyez, il est décédé en 1955. Voilà, ce sont des mythes américains, c'est la vitesse, c'est la liberté. Il n'y a pas le côté intellectuel qu'a pu, effectivement, après introduire Clement Greenberg. Mais c'est pas pour rien d'ailleurs que quand on regarde ce qui reste des abstraits expressionnistes, les deux membres les plus importants, on va dire, c'est quand même Pollock et Roscoe. Ils représentent cette Amérique. D'un côté, le natif des États-Unis, et de l'autre côté, celui qui est l'émigré. Donc c'est ça, cette Amérique. C'est à la fois ceux qui sont là depuis déjà 2 ou 3 siècles, et puis les autres qui sont émigrés. Donc finalement, c'est ça aussi qui est très intéressant, c'est de voir que le résumé s'est fait autour de ces deux figures qui symbolisaient ce qu'était l'Amérique.
Alors que l'expressionnisme abstrait tente de s'installer en Europe et aux États-Unis au début des années 50, que fait Léo Castelli, Annie Cohen-Solal?
Castelli avait passé 10 ans en arrivant d'Europe en 1941 à tisser ses réseaux. Il avait rencontré des artistes, mais aussi des critiques, et lui était un collectionneur. Il était collectionneur. Beaucoup de collectionneurs deviennent marchands aux États-Unis. Donc il est collectionneur. Il connaissait tout le monde, il était grégaire, il était chaleureux, il était convivial. Et en fait, le marché new-yorkais était nul. Castelli a dit quand je suis arrivé, c'était un désert, il n'y avait rien. C'était totalement provincial. L'artiste était la dernière roue de la société américaine. Les États-Unis, c'est un pays de pionniers, de banquiers et de mecs qui ont un flingue sous leur lit, quoi. Donc, et c'est ça qu'il a imposé dans ce pays sans culture artistique.
Léo Castelli est arrivé, a été un observateur au départ. Hein, il a ouvert sa galerie 10 ans plus tard, en 57. Mais il appelait, justement, le terme était intéressant. Il a dit, c'est une galerie, je ne suis pas galeriste ou marchand. À l'époque, on disait marchand de tableau. Je suis un entrepreneur de l'art. Donc déjà, ça voulait bien dire ce que ça voulait dire. Et puis, il parlait de cette équipe. Cette équipe, c'est-à-dire, c'est l'artiste, la galerie, le musée et le curateur. Et puis, le cinquième, il faut bien quand même que des gens achètent, c'est quand même les collectionneurs. Il faut avoir des collectionneurs très très fidèles. Voilà. Donc, on va dire cette équipe un petit peu élargie, fait que on arrive à imposer forcément. Si d'un coup, aujourd'hui on appelle ça, vous voyez, les taste makers. C'était un peu ça. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, là, il y a une entente entre l'argent, l'intellect, les gens engagés, le musée, pour imposer une école.
La première chose, c'est que Castelli va combattre la tradition américaine à l'intérieur du pays, en imposant l'artiste comme un héros. Il va les rendre riches, il va les rendre utiles, il va les rendre célèbres. Donc grâce à lui, on va parler des artistes dans les journaux, et grâce à lui, les gens riches vont être manipulés par Castelli pour financer les artistes. Alors après, effectivement, dans un deuxième temps, il a fait rayonner les artistes américains dans le monde, et là, effectivement, ça a recoupé ce que la CIA cherchait à faire.
Soit. Aucun document officiel n'atteste que Léo Castelli, le collectionneur qui monte en puissance dans le New York d'après-guerre, grâce à l'argent de son épouse Ileana, ne soit en lien avec la CIA, qui a ses relais dans les institutions culturelles et notamment au musée d'art moderne, le fameux MoMA du philanthrope républicain Nelson Rockefeller. Les agents ne manquent pas pour imposer dans les valises du plan Marshall une vision américaine de la modernité grâce à des artistes abstraits qui incarnent l'esprit de créativité et de liberté intellectuelle, de grandeur de l'Amérique. Rockefeller dira « L'expressionnisme abstrait, c'est de la libre entreprise sur toile. » La peinture gestuelle, délivrée sur de vastes formats par Jackson Pollock, va l'incarner à merveille.
La mise en place, finalement, de ce système devient beaucoup plus professionnelle à l'arrivée d'Eisenhower en 1953, avec la création de Lousia, qui est une agence qui regroupe tous les services culturels américains à l'étranger, et qui a à la tête, effectivement, le frère du patron de la CIA. Dès son arrivée au pouvoir, Eisenhower met en place cette agence d'information américaine qui va être chargée de promouvoir l'image des États-Unis partout dans le monde. Cette abstraction américaine, elle est libre, elle est faite sur des toiles immenses, mais elle fait face aussi et elle ringardise le réalisme soviétique, qui est une peinture plus politique et sert directement le pouvoir. C'est-à-dire que face aux coulures de Pollock, on a des peintures où l'on voit Staline qui tient des enfants dans les bras, ou les travailleurs des usines, ou les bateliers de la Volga, et qui est une peinture extrêmement politique et réaliste. Et cette abstraction américaine est une peinture qui n'est pas doctrinaire, qui doit aider la population européenne à comprendre, à influencer, dans le but de pouvoir promotionner l'intérêt national. Une sorte de propagande, finalement. Et ça, c'est vraiment une étape assez décisive dans la mise en place des services secrets. À partir de 1952, ils vont organiser des grandes expositions dans toutes les capitales européennes de leurs peintures qui représentent pour eux un étendard esthétique de la liberté.
Salut à la France, tel est le titre que les États-Unis ont voulu donner à la série de manifestations artistiques qui débute ces jours-ci à Paris.
L'art et la vie, 1955.
Particulièrement brillante, et je voudrais demander à Monsieur Georges Salles, directeur du Musée de France, de nous dire ce qu'il faut entendre par ce salut à la France.
Bien, ce salut si cordial à la France comporte deux manifestations fort importantes. L'une au Musée d'art moderne de Paris, et qui a été entièrement montée par le directeur du Musée d'art moderne de New York. L'autre...
En 1956, le Congrès lance une enquête parlementaire sur les pratiques de l'USIA.
Catherine Dossin, historienne de l'art.
Et on découvre qu'il y a eu une vraie censure de l'art américain. Ce que le Sénat critique vivement, considérant que le résultat est une politique culturelle sans imagination, complètement inefficace face à la propagande soviétique. Les sénateurs ordonnent à l'USIA de changer ses méthodes et, d'ici là, de ne plus envoyer d'expositions à l'étranger. Alors, puisque le USIA ne va plus envoyer d'expositions à l'étranger, ce sont les mécènes privés qui vont prendre la relève. Fin 1956, MoMA annonce la création du International Council. C'est un groupe de une quarantaine de personnalités importantes, bien sûr présidées par Madame John Rockefeller, dont le but est de renforcer, d'augmenter le programme international du MoMA. Et surtout à les envoyer partout dans le monde, et c'est ce qu'ils vont faire avec beaucoup de succès dans les années qui viennent. Pour nous, ce qui est intéressant, c'est qu'en 1958-59, MoMA circule en Europe, l'exposition « The New American Painting », et une rétrospective de Jackson Pollock qui est décédé en 56. C'est vraiment la première fois qu'on peut voir et donc comprendre l'American Abstract Expressionism en Europe, qui en 1959 n'est peut-être plus tout à fait nouvelle. Et c'est là le problème, quand l'American Abstract Expressionism arrive en Europe, c'est plus une nouveauté, c'est un peu passé. Il y a d'autres choses qui se passent et qui sont plus excitantes.
La peinture abstraite telle qu'elle était pratiquée en Amérique, surtout par de Kooning et par Pollock, n'est-ce pas, avait fini par entrer dans une impasse.
Léo Castelli, 1981.
Donc il était temps, et moi je le sentais aussi beaucoup, il était temps donc que quelque chose de nouveau surgisse.
Après 10 années d'efforts et à coups de milliards de dollars, le travail commence à porter ses fruits. À la fin des années 50, l'expressionnisme abstrait, marqué par une génération d'artistes de grand talent, incarnés par Pollock ou Rothko, de Kooning, Motherwell ou Klein, tous marqués par le passage des surréalistes français exilés à New York pendant la guerre, inscrit l'Amérique au rang de la modernité artistique. Un art moderne made in USA émerge enfin en Europe.
L'aventure du pop art a commencé en réalité avec deux artistes que je ne considère pas des artistes pop, qui quelquefois sont confondus avec des artistes pop, Rauschenberg et Jones. C'est vraiment au commencement de mon activité dans cette galerie en 1957.
Aux grandes dames des défenseurs des abstraits expressionnistes, c'est-à-dire que voilà, c'était fait en 10 ans. Les abstraits expressionnistes ont réussi à imposer le socle de l'art américain, qui est incontournable, mais il peut se passer quelque chose d'autre, et ce quelque chose d'autre, c'est le pop art, c'est effectivement la figuration qui revient, c'est la publicité, c'est tout, à la limite, on va dire qu'ils doivent encore moins à l'Europe, peut-être même rien, par rapport aux abstraits expressionnistes. Et donc là, c'est vraiment le souffle de l'art américain qui arrive. Donc voilà, c'est un nouveau monde qui arrive, mais qui va cohabiter évidemment aussi avec les abstraits. Mais le jeune art est là. Sometimes I feel so unhappy. Sometimes I feel so sad. Sometimes I feel so unhappy. But mostly it just makes me mad. Or maybe it just makes me mad. Linger on your pale blue eyes.
L'ombre de la CIA plane sur Pollock et Léo. Fin de la première partie avec Nathalie Obadia, Annie Cohen-Solal, Catherine Dossin et François Lévy-Kuntz. Archive INA, Sophie Enoch, documentaliste, Anne-Lise Signoret et Véronique Le Faller. Attachée de production, Sylvia Farr. Coordination, Christine Bernard. Un documentaire de Stéphane Bonnefoy, réalisé par Vincent Deck.
Demain, je vous retrouve à 13h30 pour la suite du documentaire Léo Castelli, agent du triomphe de l'art américain. Mais pour l'instant, 14h, c'est l'heure d'aller au cinéma avec Antoine Guillot.